Chers amis, Hachem Alechem Tiachyou, Leorech Yamim Tovim Veshanim Neemim. Nous poursuivons notre étude sur la prière du matin. Nous sommes déjà arrivés à la Kedat Yitzhak, au sacrifice d'Yitzhak, qui ouvre la première partie de la prière, qui est les korbanot, ce qu'on appelle la Ptiha, l'ouverture. Nous avons déjà parlé de cela. Il est important de revenir un instant sur cette paracha de Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu décide de mettre Avraham à l'épreuve. Donc nous avons déjà parlé quel est l'intérêt de mettre Avraham à l'épreuve. Hachem sait pertinemment, parfaitement, de ce dont est capable de faire Avraham et qu'il va réussir à faire. Alors pourquoi le mettre à l'épreuve? Alors il y a plusieurs réponses à cette question. C'est une question fondamentale. Bien qu'évidemment Hachem sache et sait pertinemment ce que Avraham est capable de réaliser et qu'il va réaliser, l'épreuve n'est pas là pour que Hachem vérifie ce que Avraham est capable de faire. Cela, il le sait déjà. L'épreuve est pour Avraham lui-même, comme nous l'avons déjà dit. Afin que lui-même, sache ce dont lui-même est capable de faire. Qu'il en prenne pleinement conscience. Souvent, nous nous mettons nous-mêmes des limites à ce que nous sommes capables d'accomplir dans le service d'Hachem. En fait, le terme qu'il convient d'employer est vouloir et pas capable. C'est pas toujours on dit, est-ce que c'est possible de faire? Est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je veux le faire? L'homme ne sait pas, par lui-même, repousser ses limites jusqu'au point de rupture. De lui-même, il ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller. Ce sont les épreuves de la vie et les circonstances qui l'obligent à le faire. Ça, c'est pour que Avraham soit conscient de ce qu'il est, de sa madriga. La deuxième chose est que cette épreuve engendre une graine puissante. Chez tous les descendants d'Abraham, chaque juif est capable de tout sacrifier, même sa vie, pour la gloire de Dieu, comme cela s'est vérifié au cours de l'histoire. Cette épreuve est une alliance indéfectible entre eux, Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Pour Abraham, l'épreuve n'était pas l'acte en soi, à savoir de mettre à mort son fils. Le message divin étant clair, il n'y a aucun doute a priori à ce sujet. D'ailleurs, Avraham ne réagit pas de manière émotionnelle et sentimentale. Avraham, il est la Merkava, le trône de gloire, c'est-à-dire qu'il n'a aucune volonté propre ou désir pour lui en tant qu'individu. Tout son être n'est que la volonté de Dieu. Il n'est pas un personnage au sens où nous le comprenons. Ce n'est pas un monsieur qui aurait sa vie privée et sa vie publique. Un temps pour servir Dieu et un autre où il accomplirait les devoirs et les besoins de ce monde. Avraham n'est pas cela. Chaque instant de sa vie se résume à accomplir la volonté de Dieu. Chez Avraham, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je. Il y a uniquement Retzon Hashem. Vu sous cet angle, quelle est donc l'épreuve? En fait, le seul souci et la seule préoccupation d'Abraham étant de réaliser la volonté d'Hachem, il aurait pu se dire, si je sacrifie Yitzhak, qui remplira à l'avenir la mission de servir Dieu? D'autant plus que Hachem lui-même lui a dit que son fils Yitzhak continuerait sa mission. Abraham aurait pu entamer une discussion à ce sujet avec Hachem, comme il l'a fait pour la ville de Sodome. C'est en cela que l'épreuve est terriblement difficile au niveau d'Abraham. Il s'agit pour lui de prendre ce monde, de perdre ce monde et le monde futur. C'est-à-dire qu'il prend ça, ce monde ici-bas et le monde futur et tout disparaît. Abraham s'efface totalement, complètement, comme s'il n'avait jamais existé, pour que la volonté de Dieu se fasse et sa gloire se réalise. Comme s'il disait, pour l'amour d'Hachem, je m'annule, je disparais de tous les mondes. C'est comme si qu'on dit, aujourd'hui, on veut la venue du Mashiach. Mais est-ce que tu es prêt à ce que la venue du Mashiach se réalise? Est-ce que la gloire d'Hachem se rétablisse et sa royauté se retrouve dans ce monde, et toi-même tu disparais comme si que tu n'as jamais existé, tu n'y participeras pas. C'est à ce prix que la gloire d'Hachem soit rétablie. Est-ce que tu es prêt à cela et que tu n'auras rien? Tu as toute ta vie, tu as fait Avodat Hachem de manière sincère, avec dévouement. Mais tu n'auras aucune part dans le monde futur, tu n'as aucune part dans le dévoilement de la venue du Mashiach. C'est très difficile. C'est ça la madriga de Avraham. Quand nous récitons le schéma, dans le premier verset, on dit schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem, il n'y a que Hachem. En od milevado, il n'y a que lui. Il faut avoir la pensée d'être prêt à mourir pour que la gloire d'Hachem se réalise. Tant que l'homme se tient à sa place dans ce monde, il empiète sur la place d'Hachem. Il prend la place de Dieu. Or, nous voulons tous que le Mashiach arrive au plus vite. Alors, c'est ça la question. Le voudrions-nous si nous n'avons aucune place dans cette réalisation? L'aspiration à la venue du Mashiach, en sachant que je n'aurai aucune part, mais uniquement pour la gloire d'Hachem, que celle-ci soit rétablie parfaitement. C'est cela l'épreuve de Avraham. Il y a une deuxième épreuve pour Abraham qui est de loin beaucoup plus difficile. C'est quand l'ange l'interpelle et lui dit de ne pas toucher à Yitzhak, qu'il n'a pas besoin de faire cet acte. Abraham acquiesce et se soumet à cette volonté, sans sourciller. Alors il aspire de tout son être à remplir sa mission jusqu'au bout. Comment? On lui dit, il a tout donné pour Hachem, tout d'un coup on dit arrête-toi, stop. Mais comment, est-ce que mon acte n'est pas accepté? Comment tu m'empêches d'arriver à l'extase, au sommet de la réalisation de la volonté de Dieu? Donc c'est ce qui a marqué ici dans la Akeda. Alors au début, la Akeda, nous allons voir chaque pasouk en séparé. Voyez Haradevarimaele, et ce fut après ces faits. Donc c'est le kitroug du Satan. Le Satan accuse Abraham. Abraham n'a pas offert à Hachem quand il a eu Yitzhak, même pas un petit sacrifice. Alors le Satan l'accuse. Et donc automatiquement, Akadosh Baruch Hu le met à l'épreuve. Donc on remarque que ici c'est Vea Elohim Nissa et Abraham. C'est le nom de Dieu Elohim, la tribu de rigueur, qui met Abraham à l'épreuve. Puis, quand l'ange intervient pour l'arrêter, alors là-bas, il n'est pas employé le mot Hachem, il n'est pas employé le mot Elohim. C'est le nom de quatre lettres, Yotke Vavke, Malach Hachem, qui parle à Abraham. Il dit, ne touche pas l'enfant. Vaikra, Malach Hachem et Abraham, il lui dit, Minachem, Vayomer Abraham, Vayomer Ineni. Que lui dit-il? Il lui dit, ne touche pas avec ta main, ne porte pas ta main sur l'enfant. Alors, il y a deux. Donc, nous voyons qu'il y a deux attributs ici. Il y a l'attribut de rigueur, Elohim, et il y a le Shem Havaya Baruch Hu. Alors là, il y a ce que les Mkoubalim et nos maîtres enseignent, c'est qu'il y a deux manières. Quand Baruch Hu dirige le monde, deux manières. De la manière naturelle, c'est le Shem Elohim. Et la manière surnaturelle, El Mazal Israël, c'est le Shem Havaya. C'est ce que nous appelons la Ashgacha Klalit et la Ashgacha Pratit. Ou bien, dans une autre terminologie, c'est Anagat Aigulim et Anagat Ayosher. La direction ronde et la globale du monde, ou bien naturelle, ou bien la direction droite, qui s'applique uniquement à Israël. Donc le Shem Elohim, la direction globale, elle est celle de la création du monde. Donc dans la création du monde, il y a 32 fois le nom Elohim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Ce nom-là est répété 32 fois. Ce nom a la même valeur que le mot Teva, Ateva, la nature. Il traduit la Ashgacha Klalit ou le Mazal, tout ce qui a été fixé, la destinée générale, globale, fixée, inchangeable, on ne peut pas la changer, immuable de la direction de ce monde, des règles de la nature et des lois qui sont fixées au début de la création. Quand notre père Abraham est choisi par Hachem, il va lui appliquer une nouvelle direction à ce monde, qui dépasse les lois de la nature. Hachem annonce à Abraham qu'il aura une nombreuse descendance. Et Abraham lui dit, j'ai vu dans les as que je n'engendrerai pas. Alors Hachem lui dit, oui, dans les as, tu n'engendres pas, sous les as. Mais il le sortit, le Midrash dit, il le prit, il le plaça au-dessus des as. Il lui dit, Abet, non, aurait à Kochavim. Il dit, regarde, observe, ça veut dire regarder du haut vers le bas. Donc il l'a mis au-dessus des étoiles, bien au-dessus. Il lui dit, regarde les étoiles, si tu arrives à les dénombrer, alors ainsi sera ta descendance. Et c'est cette direction du Shem Havaya Baruch Hu, qui est au-dessus de la nature, qui va se dévoiler, commence à se dévoiler par Abraham, et qui va prendre toute sa puissance au moment de la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Pour Israël, il y a possibilité d'élévation, de changer les choses. Il n'y a rien de figé. Alors que pour les restes de l'humanité, la destinée est figée. De même, les sciences profanes n'ont aucune place dans la Torah et dans l'enseignement de nos maîtres. Ils ne parlent jamais des règles scientifiques, et c'est pas à ça qu'ils font allusion. Ils font, parce que ça, c'est leur aïgoul. Ça, c'est l'ashgaha pratit qui correspond aux nations. La Torah correspond à la spécificité du nom de Dieu, Yod Kei Vav Kei, qui est une autre dimension, qui est au-dessus des règles de la nature. Toute la Torah. En aucun cas, la Torah ne parle des règles naturelles. Elle parle des règles surnaturelles. Il y a ici une parenthèse à ouvrir. Il ne sert à rien de vouloir prouver ou justifier la véracité de la Torah par des découvertes scientifiques. Cette démarche est totalement erronée. Les deux directions agissent en parallèle. Ce principe essentiel est fondamental et on fait l'alliance entre Hachem et son peuple. Ainsi, la ligature de Yitzhak, Akedat Yitzhak, va-t-elle engendrer l'alliance avec la descendance d'Abraham? C'est cela la raison réelle de cette épreuve. Elle se traduit par le nom de quatre lettres qui dépasse la nature. C'est la conduite miraculeuse extra-naturelle pour Israël. Alors qu'est-il dit? Vayashkem Abraham Baboker. Abraham, quand nous parlons de Abraham, il s'agit du Baal, de Midat HaHesed. Il ne s'agit plus du personnage. Le matin, ce sont les énergies de la bonté qui vont apparaître, les nouvelles énergies qui concernent ce jour qui apparaît. Ce sont les énergies de la bonté qui donnent la vie, la volonté de l'amour, l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans sa volonté, c'est de donner la vie. Donc à chaque jour, Akadosh Baruch Hu octroie les énergies qui correspondent. Donc le mot Avraham correspond au Hesed. Le nom d'Abraham a pour valeur numérique 248, comme les mitzvot positives et le nombre des organes du corps du humain. Il y a aussi l'amida de Hesed, comme nous l'avons expliqué, qui s'exprime par l'amida de El. C'est la première des 13 attributs de miséricorde. El, valeur numérique 31. Le premier des attributs de la clémence et l'expression de la sublime bonté. Abraham l'a fait se déployer sur les 8 niveaux qui constituent l'espace. L'espace, c'est de 6, le temps est de 7, et enfin le 8, c'est au-dessus de l'espace. C'est le concept de l'éternité. Donc, si on a 8 fois elle, alors ça fait Abraham. Abraham se leva de bonne heure. Alors, il sangla son âne. L'âne est symbolise la homriout, la gashmiout, la matérialité épaisse. Homer, il maîtrisa cela. Donc il maîtrise ses passions. Cette matérialité chez l'homme, elle s'exprime par les émotions, les sentiments. Il maîtrise tout ça et n'agit que par et fait dominer sa nature physique. Ses émotions, par son intellect, par sa compréhension des choses. Donc c'est ça la notion qu'il a. Voyashkem Abraham Baboker, Voyahvosh et Hamoro. Il a dominé, maîtrisé son âne, sa matérialité. Alors après, il prend avec lui ses deux serviteurs. Les serviteurs aussi sont les serviteurs de la matérialité. Ils n'ont pas d'accès à ce qui est au-dessus de la conception humaine du Yosher, de Shem Havaya. Ils ne sont que dans le Shem Elohim. Et il va vers l'endroit. Makom, c'est le nom de Dieu. Et l'expression du développement du nom de quatre lettres. Comment on obtient Makom? Le mot Makom, c'est le nom de Dieu. Comment? 186. Quand on prend 10 fois Yud, le Yud, il se développe en lui-même. Le He se développe lui-même. 5 fois He, 6 fois Vav, et 5 fois He, ça fait 100. Après, on a 25, 36 et 25, ça fait 186. C'est le mot Makom. C'est pour ça que le nom Makom est le nom, l'attribut du nom de Dieu. Comme nous disons dans la Haggadah, Baruch HaMakom Baruchu, béni soit le lieu, le monde, le Akadosh Baruch Hu est le lieu dans lequel il a fait la place en lui pour faire une place à la création. Donc, un Makom chez Akadosh Baruch Hu, ou Mekomo chez l'Olam, c'est le monde s'est placé en lui. Donc, c'est ça le sens que il va vers l'endroit, vers le lieu. De quel lieu? Le lieu qu'il va. Ici, il y a une notion très importante. Le lieu que lui-même va construire, il va faire lui-même une place pour Akadosh Baruch Hu dans son monde. Comme nous l'avons déjà dit, quand dans notre vie, dans notre monde, à chacun, c'est-à-dire nos soucis, notre activité, dans notre monde, à nous, attaché à la matérialité, quelle place nous faisons à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que Dieu, quand on pose la question, il est où Dieu? Alors les gens répondent, il est partout. C'est le plus grand mensonge de dire que Dieu est partout, parce que il ne s'agit pas de ça, que Dieu est partout dans son monde à lui. Mais la question elle est-ce que dans ton monde, Dieu est présent? Alors, pour que Dieu soit présent dans ton monde, il faut que tu lui fasses la place. Et c'est ça la notion qu'Abraham a été vers le lieu. Donc la bonté, au matin, se lève, qui est le temps des bontés, et se renouvelle. Il monte sur son âne, sur la matérialité, totalement dominé et maîtrisé. Il va vers le lieu, vers l'endroit. C'est-à-dire qu'en maîtrisant la matérialité, il maîtrise ses sentiments, ses émotions. Il maîtrise tout son monde. Il le maîtrise et en fait la place de Dieu. Il fait à ce moment-là de lui-même disparaît, et il n'y a que, il laisse la place à Kadosh Baruch Hu. Bayom HaShishi, Vayisa Avram et Einav. Le troisième jour, Avram a levé les yeux, et il aperçut l'endroit de loin. Chachamim nous disent qu'il y avait sur cette montagne-là une nuée. La nuée, la présence de Dieu se manifeste par la nuée. Parce que le brouillard, la nuée, Dieu, on peut pas le voir. Donc c'est l'écran. On peut le ressentir. Donc lui, il a vu la nuée. Cette nuée-là, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Quand il demande aux deux serviteurs qui l'accompagnent, Ishmaël et Eliezer, vous voyez quelque chose? Il lui dit, oui, on voit une montagne avec des bois, des animaux, etc. Donc ils n'ont rien vu. Alors il leur a dit, vous restez ici avec l'âne. L'âne aussi ne voit rien. C'est-à-dire que les deux sont dans la même, c'est pas qu'ils sont comparés à l'âne, c'est-à-dire qu'ils sont comparés à la dimension matérielle de ce monde. Ils sont dans la nature de ce monde, dans la matérialité. Ils n'ont pas accès au-delà de cette matérialité. Donc, et l'action qu'ils vont entreprendre, que Avraham doit entreprendre, dépasse cette matérialité. Il est attaché au nom de Dieu, Avaya. Et à ce niveau-là, Ishmaël et Eliezer n'ont pas accès encore à cela. Alors, il s'élève avec Yitzhak. Vaikar Avraham et Atseola. Avraham a pris avec les bois qu'il a préparés, c'est-à-dire qu'il les a préparés avant, parce qu'on aurait pu dire il les prépare sur le lieu, pourquoi il va transporter des bois? Non, il les a préparés déjà au matin quand il s'est levé, il les a amenés avec lui. Chaque bois, pour faire le feu, a été choisi, préparé, à Kol Leshem Shamaim. Donc il les porte avec lui. Vayasem al Yitzhak, il les a mis sur Yitzhak, son fils, et il a pris, Vayikar Beyado et Taesh, il a pris avec lui le feu et le couteau. Ils y vont ensemble, comme nous disons dans le fameux piyout que l'on récite pendant les fêtes, qu'ils ont été d'un seul cœur, à l'unisson, ensemble. Alors ils allèrent ensemble, tous deux ensemble. Yitzhak s'adresse à Avraham et lui dit, mon père, où il est voilà, il y a le feu, le bois, le couteau, mais où il est l'agneau? Qui est le corban? Il est évident qu'Yitzhak comprend de quoi il s'agit. À savoir qu'il est lui-même l'objet du sacrifice. Et alors la question elle est, comment Akadosh Baruch Hu a pu demander à l'homme de sacrifier son fils? Et ça c'est la question du Chacham. Nous avons dans la Gada 4 enfants. Et le Chacham, l'enfant intelligent, savant, éveillé, alors il pose la bonne question. C'est Yitzhak qui pose une bonne question, mais qui n'obtient pas de réponse. On n'a pas. À partir du moment où on pose une bonne question, la question renferme déjà la réponse. Ils vont ensemble d'un même cœur, d'une même intention. C'est la fusion de la bonté, le hesed d'Avraham avec la rigueur de Yitzhak. Bayavo et la Makom, ils atteignent l'endroit, hein, Makom, l'endroit du dévoilement de Dieu, la place qu'ils ont fait à Kadosh Baruch Hu dans leur monde. C'est ça ce que Hachem lui a dit. Ils atteignent l'endroit que Dieu leur a désigné, indiqué. Avraham, il va construire le Mizbeach. Donc c'est le Mizbeach, c'est lui-même. Il y dépose le bois et il va attacher Yitzhak et il le place sur l'autel au-dessus du bois. Au-dessus de la construction qu'il a fait avec les bois pour faire le feu. Donc quand il attache, ici c'est le haïkar, l'essentiel de la hakeda, puisqu'on appelle attacher la ligature de Yitzhak, comme nous l'avons déjà dit, la behina des rigueurs, Yitzhak est rigoureux. Alors on va expliquer ça de la manière suivante. Il y a quelqu'un qui a investi de la rigueur. Il y a des gens qui sont très rigoureux. Donc, ils n'acceptent aucun écart, aucune faille. Alors, la tefila doit commencer à 7h. C'est inadmissible que quelqu'un arrive à 7h01. Que l'on commence à 7h01. Donc, si on commence à 7h, tout le monde doit arriver à 7h10. De sorte qu'on commence vraiment la prière. Comment c'est possible? Donc, ils sont inflexibles, d'une rigueur totale. Et le regard qu'ils portent sur ceux qui vont arriver à 7h, 7h01, est un regard terrible, de Midat Hadin, l'accusateur. Comment oses-tu agir de la sorte pour servir Dieu, tu arrives en retard? Et cette rigueur-là, elle est insupportable aux yeux de Dieu, parce que si on applique la rigueur, le monde ne peut pas exister. Alors c'est ça la Midat de Yitzhak. Et cette Midat-là a besoin d'être apaisée, maîtrisée, adoucie. Alors c'est ça la ligature. La ligature, c'est que Yitzhak doit comprendre que cette mida de rigueur, elle est indispensable à la création, au service divin, mais elle doit s'appliquer à lui-même. Et c'est ça ce que disent nos maîtres. En agvorot mit matekot, le Zohar dit que les rigueurs ne peuvent s'adoucir qu'en faisant un retour sur eux-mêmes. C'est-à-dire que celui qui a cette mida de rigueur, il doit se l'appliquer à lui-même de manière totale. De sorte que le regard qu'il va porter aux autres sera un regard de compassion. Et dès que Avraham va attacher Yitzhak, et Yitzhak lui-même comprend ça, il lui dit, le Midrash dit, il dit, attache-moi bien, faut pas que je bouge. Dès qu'il a attaché, l'épreuve est arrivée à son terme. L'épreuve est finie. Il dit, attache-moi bien, j'ai fini le travail. Akadosh Baruch Hu lui dit, stop. Avraham étendit sa main et saisit le couteau. Vaishlach Avraham et yado vaikah et machelet le couteau. L'ishrat et benon. Et là, vaikra el malach Adonai min hashamayim. Et c'est là que l'ange de Dieu, ici nous remarquons que le nom de Dieu c'est Yod Kei Vav Kei, il appelle du ciel, lui dit Avraham, Avraham, et Avraham répond oui. Il lui dit, al tishlach atrei lana, ne touche pas l'enfant. Car désormais, j'ai constaté que tu honores Dieu comme il faut. C'est-à-dire, tu es arrivé à la madriga. Donc, Avraham a été au-delà de ce qu'il est capable, du concept normal, naturel de l'attitude d'un homme. Il a été à la limite de ce qui est capable, qu'un être humain est capable d'agir. Et Yitzhak a compris le sens du message. Donc là, le travail est fait. Et c'est cette action qui restera, qui est gravé pour l'éternité dans le cœur de chacun d'entre nous. La vision première d'Abraham dans laquelle Dieu lui demande de sacrifier son fils n'est pas fausse. Mais elle nécessite une compréhension, parce que si on a ici une coucha, au début tu me dis sacrifie, après tu me dis ne sacrifie pas. Mais Chachamim disent, le Farshim, le Ramchal, dans plusieurs endroits explique cela, que à jamais la parole de Dieu ne revient sur elle-même. C'est-à-dire qu'il fallait la comprendre. Dieu ne lui a pas dit, tu vas tuer Yitzhak. Il lui a dit, tu vas l'élever, tu vas me le monter en holocauste, en hola. Ve'aleu sham le hola. Donc on peut comprendre, il y a deux facettes, tout ce qui est a priori négatif se peut s'appliquer de deux manières. Mais jamais Akadosh Baruch Hu, quand il décrète quelque chose de positif, ne revient sur sa parole. Et ici, donc Abraham va comprendre que au début, il comprenait que c'était, il fallait le sacrifier, et maintenant, il comprend que c'était une élévation. La parole Hachem est donnée de telle manière qu'elle peut être interprétée de deux manières. La première est celle que veut accomplir Abraham, à savoir réellement sacrifier son fils. La deuxième est celle que l'ange lui précise, le terme sacrifié n'a jamais été employé. Mais il lui a dit, montre-le-moi en holocauste. Il s'agit de la ligature, comme nous l'avons expliqué. Abraham lève les yeux et voit le bélier, dont les cornes sont prises dans le buisson. Le mot sevar, buisson, sont les lettres qui précèdent le mot aigel. Le samer, il vient avant le haïn. Le bet, il vient avant le guimel. Et le chaf, il vient avant le lamed. Ici, il faut avoir la kavana, quand on lit ce mot, que cette action-là, elle précède le haïgel et permet, et nous permet de pardonner le haïgel, la faute du haïgel. Ce buisson vient donc réduire la faute du haïgel et ses conséquences. Tout ce qu'Abraham fait sur le bélier est pour lui comme s'il s'agissait de son fils. Le lieu de sacrifice prend le nom, alors c'est là que Hachem apparaît à son peuple. C'est la montagne où Dieu apparaît. Cet endroit est appelé une montagne. C'est Abraham. Mais après qu'Abraham ait surmonté l'épreuve, ce lieu prend le nom de celui où Hachem se dévoile à son peuple. C'est après l'épreuve, c'est ça l'épreuve. L'épreuve avant l'épreuve, ça nous paraît une montagne à gravir. Donc quand quelqu'un lui dit tu vas faire la prière avec Kavana, mot à mot, or ça paraît être, c'est comme si qu'on lui demande de faire l'ascension de l'Himalaya. Alors il voit le sommet, il dit jamais j'y arriverai. Mais quand il commence à monter, alors il lève les yeux, il a commencé à faire 3-4 mètres. Alors il monte, alors il voit plus le sommet, il voit juste les quelques mètres qui sont au-dessus de lui. Et ainsi de suite, il est capable de les affranchir. Mais c'est quand il arrive en haut, au sommet, qu'il voit que s'il a gravi une montagne. C'est ça le biour que Abraham a appelé ce lieu-là une montagne. La montagne, c'est après qu'il a réussi à la gravir. Comme disent les Chachamim, le Yetzer Hara, il ressemble à une montagne aux yeux des Tzadikim, et il ressemble à un petit filet aux yeux des Rechaim, ceux qui n'ont jamais réussi à surmonter le Yetzer Hara. Alors chez eux, maintenant, après coup, ils se disent « Ah, c'était facile ». Mais celui qui a réussi, le Tzadik qui a réussi à gravir les choses les plus difficiles, alors pour lui, c'est une montagne. Celui qui a réussi, il comprend conscience que c'est pas lui qui a réussi, c'est Hachem qui l'a aidé. Et que c'est une montagne qu'il a réussi à gravir. Ce lieu-là a été appelé par Yitzhak. Abraham, une montagne. Yitzhak, il a appelé un champ. Et Abraham, et Jacob l'a appelé une maison. Mais c'était le même lieu, c'est le même endroit. Il n'y avait ni maison, ni champ, c'est une montagne. C'est le champ, c'est chacun des trois avant, va appréhender le lieu, la présence de Dieu d'une autre manière. C'est une graduelle, c'est une construction. Vaikra malach Hashem el Avraham shenit min hashamayim. Alors là, l'ange va l'appeler une deuxième fois. Toujours ici, quand il appelle avec le nom de Dieu. Yotke vavke. Vayomer ki bi nishbati neom Hashem. Alors il dit, j'ai juré par mon nom. Hashem a juré par son propre nom, le nom de l'éternité. C'est donc le serment, la parole de Dieu, quand il est dit ici le nom de Dieu, elle est éternelle, elle est immuable. Qui a un Asher Asita et Davarazé, tu as réussi à accomplir cette chose-là. Mais le Hasarta et Bincha, tu n'as pas voulu épargner ton fils unique. Alors, qui barecha barechecha, je te bénis, je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Ve'arbar be'ezaracha. Comme les étoiles du ciel et comme le sable à la surface de la terre, à la bordure de la mer. Et tes descendances conquérera les portes de tes ennemis. Et toutes les nations de la terre s'estimeront heureuses par ta prospérité. et par ta postérité. Donc la bracha, la prospérité des nations, elle vient par la présence de Am Israël. Et en récompense de ce que tu m'as accompli, cette action-là, qui semblait être la fin d'Abraham, la mort de son fils, en vérité, c'est l'ouverture vers l'éternité, la bracha, la prospérité, l'abondance, la réussite. Alors là, ici, il est dit qu'Abraham s'en retourna chez ses serviteurs et ils se remirent tous ensemble en route et ils s'en retournaient habiter à Beersheba. Cette épreuve a scellé l'alliance, comme nous l'avons dit, entre Hachem et Israël jusqu'à la fin des temps. De par cet acte, Abraham donne à sa descendance une dimension particulière. La conduite générale de ce monde ne s'appliquera pas sur elle, sur cette descendance-là. Le temps voulu Hachem leur dévoira la conduite spécifique de ce monde, ce que les Mekoubalim appellent la conduite droite, le Yosher, Anagat à Yosher, ce qui apparaîtra dans toute sa puissance à les plaies d'Égypte, la Makat Bechorot, la sortie, Kabbalat à Torah, etc. Les règles naturelles n'ont pas de prise sur Israël, ce qui est en dehors de la nature, comme nous l'avons déjà développé plus haut, nous l'avons déjà dit. Maintenant, comprenons la mort de Sarah. Au sujet de la mort de Sarah, Rashi rapporte un midrash qui nécessite un éclaircissement. Rashi dit, le récit de la mort de Sarah fait immédiatement suite à celui de l'Akedat Yitzhak. Alors il dit, lorsqu'elle apprit que son fils avait été ligoté sur l'autel et prêt à être égorgé, il s'en est fallu de peu, et qu'il soit sacrifié, elle ressentit un tel choc et elle est morte. Alors la question est, de quoi est morte Sarah? Alors de là, on peut dire, de la douleur terrible de la perte de son fils. Ne sait-elle pas que tout ce que fait Abraham n'est que la volonté de Dieu? Si Hachem s'était adressé à elle pour sacrifier son fils, elle aurait refusé de le faire. Il n'y a pas de différence entre Abraham et Sarah. Elle aussi maîtrise totalement les sentiments et ses émotions. Sa vie, comme celle d'Abraham, est entièrement vouée à la volonté d'Hachem. À eux deux, ils forment la Merkava. Le choc que subit Sarah est terrible, car elle comprend qu'Abraham s'est trompé, qu'il n'a pas vraiment compris le message d'Hachem. Est-il possible que Dieu demande un sacrifice humain, celui de Isaac, qui assumera le service de Dieu après? Elle meurt, ou plus exactement, son âme la quitte. Car si Abraham a vraiment immolé son fils, alors il commet là une erreur fatale qui mènera le monde à sa destruction. Le projet d'Hachem serait donc contrecarré. Il est en échec, ras du shalom. Elle ne meurt pas de manière égoïste, humaine, de sa douleur de mère qui craint pour son fils comme un simple mortel. Sarah n'est pas à ce niveau. Elle craint pour la gloire de Dieu. Et elle meurt de l'erreur d'Abraham. Nos maîtres ont bien dit que le degré prophétique de Sarah est bien plus élevé que celui d'Abraham. Après avoir dit la Akeda, il y a un verset qui est rajouté. On ajoute un verset qui est dit, On l'immolera, donc le korban, tamid, du matin, sur le côté nord de l'autel, devant Hachem, l'ifne Hachem. Et les enfants de Aaron prendront le sang et l'aspergeront autour de l'autel, sur les quatre coins de l'autel. Selon Rabbeinu Ahida, il faut dire ce verset après la Akeda. Le mot Tsafona, au nord, fait allusion aux quatre combinaisons. Le mot nord, le nord, c'est les rigueurs. Du nord, dans les quatre directions, le nord, le sud est la bonté, le nord est la rigueur. Le sud, c'est Abraham, et le nord, c'est Isaac, c'est la rigueur. L'est et l'ouest sont le Tiferet, l'harmonie, et le Malchut. Alors, il dit ici, le mot Tsafona, il fait aussi allusion aux quatre combinaisons du nom de Dieu. C'est-à-dire, qu'il y a quatre combinaisons du nom de Dieu. Le nom de Dieu, Yod, Ke, Vav, Ke, on peut l'écrire avec des Yod. Le Yod, Yod, Vav, Dalet, fait 20. Le He, Yod, ça fait 15. Le Vav, c'est Vav, Yod, Vav. Et le dernier He, c'est He, Yod. Cette combinaison vaut 72. Il y a une deuxième, c'est la combinaison qui correspond au monde le plus haut. Le monde de l'émanation, la Hatzilut. Il y a un deuxième, plus bas, qui est Yod, Ke, Vav, Ke. Les trois lettres sont identiques. Le Yod, le He sont identiques. Et le Vav, au lieu de prendre un Yod, il prend un Aleph. Et là, la valeur numérique, c'est 63. Puis il y a un autre, plus bas, une autre combinaison qui correspond au Vav. Donc il est écrit là Yod, Ke, Vav, Ke avec des Aleph, la valeur numérique 45. Et il y a un quatrième niveau qui est Yod, Ke, Vav, Ke, qui est doublé. Yod, c'est 20, et s'écrit 2 E. Le Vav, c'est 2 Vav, et le E, c'est 2 E. C'est valeur numérique 52. Quand on prend 72, 63, 45 et 52, qui correspondent à tous les niveaux de la composition du monde, le monde est créé sur quatre niveaux, minéral, végétal, animal et humain. Il y a quatre mondes, le monde de l'action, Olam HaAsiya, qui correspond au Korbanot, le monde de la transformation, ce qui correspond à la tfila des Psuke des Imra, au chant. Plus haut, il y a le monde de la création, qui correspond au brachot du Kriyat Shema. Puis il y a le monde de l'émanation, c'est le monde le plus élevé, qui correspond à la Amida. Ces quatre niveaux se retrouvent dans l'homme, comme nous l'avons dit, le système nerveux, l'intellect au niveau du cerveau. Après, il y a le système respiratoire, le système digestif et le système reproducteur. Quatre niveaux. À chaque fois, l'homme aussi, il a quatre vêtements. Comme il est dit, la peau, la chair, les tendons et les os. Donc c'est l'aspersion du sang. L'action que nous faisons, elle doit se diriger et elle doit atteindre tous les niveaux de la création. Toutes les composantes de la création, aux quatre niveaux, c'est ça de Tzafona. Ça englobe tous les niveaux de la création. C'est pour cela que chacun des actes, comme nous l'avons dit précédemment, chacun de nos actes dans une mitzvah doit conjuguer la volonté, la pensée, la parole et l'action. C'est encore une fois à quatre niveaux. Et quand le Kohen aspergeait le sang sur le misbéar pour obtenir la réparation dans le Beth Amikdash, il faisait aussi à ces quatre niveaux de sorte que la réparation soit totale et entière. Donc nous avons conclu ici la Akedat Yitzhak en espérant que tout cela a été relativement clair. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.